Il y a effectivement des sunnites qui s'en prennent à des sunnites, puisque de la même manière que les salafistes considèrent les chiites et les kurdes comme les collaborateurs de l'ancien occupant et donc des leaders illégitimes, ces mêmes salafistes s'attaquent aux sunnites qui ont osé prendre part à la transition et plus particulièrement donc aux sunnites membres de l'armée et des forces de sécurité, mais aussi aux dirigeants politiques qui ont rejoint le gouvernement de Maliki. Et cette mouvance djihadiste s'en prend aussi à certaines tribus dont les membres s'étaient alliés aux forces américaines et qui aujourd'hui combattent aux côtés de Maliki. Ces tribus sont réputées traîtres à la cause des djihadistes et aussi les victimes d'une campagne d'attaque qui en réalité a cours depuis plusieurs années.
Comment est-ce que concrètement le gouvernement, qui est donc chiite, essaie de contrer cette violence?
Il y a quand même eu un certain nombre d'attentats, dont des attentats suicides, qui laissent à penser que le gouvernement aura finalement une marge de manœuvre assez réduite pour contrer cette violence. Et on l'a déjà vu hein, très clairement en début d'année, le gouvernement a été assez largement pris de court par l'assaut des djihadistes et débordé au niveau sécuritaire. Donc il y a aujourd'hui une surenchère militaire de la part du gouvernement de Maliki qui a été littéralement bombardé les régions insurgées sunnites, qui effectivement a déployé un complexe sécuritaire très sophistiqué dans le cadre de ces élections, puisqu'il ambitionne sa réélection et se présente précisément comme étant l'homme de la situation, le seul qui peut justement défaire Al-Qaïda et la menace terroriste. Alors tout cela, bien sûr, participe hein, de ses calculs politiques propres, puisqu'on peut considérer dans une large mesure que cette militarisation a contribué à radicaliser les sunnites, qui continuent par ailleurs de dénoncer leur exclusion des sphères du pouvoir et à réclamer leur réintégration politique, institutionnelle, ce à quoi Maliki s'est quasiment perpétuellement refusé à travers un certain nombre de manœuvres contre ses adversaires.
Par rapport à cette militarisation, comment réagissent les Irakiens?
Les Irakiens sont désillusionnés, désabusés depuis un certain nombre d'années. Mais la différence entre ces élections et celles de 2010, c'est qu'en 2010, les Irakiens s'étaient quand même mobilisés autour d'un certain nombre de coalitions au message national qui ont entre-temps décliné, qui n'ont pas su répondre aux demandes des Irakiens. Donc aujourd'hui, il y a un grand désenchantement qui règne parmi cette population et les élections sont assez largement impopulaires, à la fois chez les sunnites qui, encore une fois, contestent leur mise en marge, mais également chez les chiites, qui vivent eux aussi dans des conditions particulièrement précaires. Cela vaut notamment pour les couches de la population les plus défavorisées et qui donc ne se reconnaissent pas non plus dans leur leadership. Au-delà des réflexes communautaires, il y a assez clairement un divorce aujourd'hui entre la population et ses élites.
Et justement, ce désintérêt pour la politique, est-ce qu'on s'attend à beaucoup d'abstention et qui peut en profiter?
Il est difficile de prédire quels seront les taux de participation, mais a priori, la désillusion, le désenchantement des Irakiens ne va pas dans le sens d'une grande mobilisation, puisqu'un certain nombre d'Irakiens considèrent que finalement les jeux sont faits et que dans tous les cas, Maliki se maintiendra au pouvoir. Comme je le disais, il y a une désillusion quant à la perspective encore que l'Irak devienne une démocratie, puisque par ailleurs, l'opposition politique est complètement divisée et incapable d'opposer un front commun à la reconduction de Maliki. Donc, pour beaucoup d'Irakiens, je dirais, les jeux sont déjà faits.